Donc le combat spirituel, c'est un combat, j'allais dire, de, entre guillemets, de tous les instants. De tous les instants, et cette défiance de nous-mêmes qui fait partie, au fond, de la connaissance aussi de soi. Cette connaissance de soi, c'est aussi la connaissance de nos propres fragilités. Sachant que dans nos fragilités, dans nos blessures, parce que nous n'avons pas été aimés d'un amour plaigné et complet, les parents ont fait ce qu'ils ont pu, mais aucune personne peut aimer comme Dieu aime. Et donc, du coup, il y a des blessures qui se sont développées dans notre cœur. Et parfois, dans ces blessures, vient se loger des tentations. C'est ça qui est intéressant, c'est comprendre comment ça fonctionne. C'est dans la blessure, il y a la tentation. Par exemple, une personne, voilà, qui serait insécure dans l'amour, une insécurité dans l'amour, voilà, n'a de cesse d'être approuvée. N'a de cesse de se mettre en valeur, n'a de cesse de passer de bras en bras, etc., comme pour se rassurer. Vous voyez, donc c'est intéressant de voir que il y a la blessure dans nos vies au plan psychologique, mais bien souvent, dans cette blessure, vient se nicher hein, une tentation, et du coup, pour pouvoir combler, on est tous pareils, on veut essayer de compenser, parce qu'on a peur du manque. Pour nous, parce que le manque nous rappelle la limite, et la limite nous rappelle la mort. Et donc, c'est vrai que la connaissance de soi et le fait d'être connecté à soi-même par la vie de prière, par une vie une retraite, c'est vraiment un lieu idéal pour se reconnecter, évidemment, au Seigneur, mais aussi à son être profond, à son cœur profond, de découvrir que dans son cœur profond, eh bien, nous avons des attitudes qui ne Voilà, de repérer aussi nos points de fragilité et donc de ne pas nous mettre dans des situations où nous serions plus fragiles, où nous serions, voilà, et ne pas, c'est dans l'acte de contrition en espagnol, à la différence du français, il est dit à un moment donné, renuncio a las ocasiones proximas al pecado, c'est-à-dire que je renonce aux occasions qui conduisent au péché. C'est-à-dire que non seulement je renonce au péché, mais je renonce aux occasions qui conduisent au péché. Comme vous le savez, je suis assez impliqué auprès des couples, etc., dans les préparations au mariage, et je suis peu psychorigide, mais il y a un point où je suis très psychorigide, c'est la question de la fidélité. Et du coup, parfois, sans forcément être compris de la part des jeunes couples en formation, de dire que cette question de fidélité fait que vient souvent où les manques de fidélité, où on se met en danger l'un ou l'autre. Parce que, par exemple, en se livrant trop, sans forcément voir au début le mal, mais du coup, on abaisse les barrières, on laisse se regarder à l'intérieur, des one-to-one avec les personnes de l'autre sexe, ce qui fait que les choses peuvent devenir ambiguës, etc. Donc, attention à ne pas se mettre dans des situations où on sent, ou avec des personnes, situations où avec des personnes. Vous expérimentez tout ça au travail. Je sais que si je veux critiquer mon chef, je vais aller voir telle personne, j'ai qu'à appuyer sur le bouton et c'est parti en boucle. Ça, on le sait. Donc, je cherche quoi? À me dire que je suis plus intelligent que mon chef. Bon, c'est vrai. Donc, du coup, voilà. Donc, mais voilà, que ça sert à quoi? Vous voyez, c'est là où il y a une. Ou comme agir comme chrétien, que les personnes se posent la question, mais pourquoi vous agissez comme ça? On se dit, oui, mais au travail, comment faire pour témoigner de sa foi, etc. Bon, on peut dire éventuellement, de retour au travail, mardi, vous dites, vous pourrez dire, qu'est-ce que vous direz? Tiens, c'est intéressant. Que vous avez fait un séjour en Picardie, ce qui est assez juste, que vous avez visité un monument historique, c'est aussi juste, voilà, ou que vous avez fait une retraite. Voilà, vous voyez, un truc, tout ça, bah, ouais, une retraite, c'est quoi, machin, bah, du coup, tu rentres en braille. Mais, je veux dire, beaucoup, je pense, vit comme chrétien de façon à ce que les autres se posent des questions. Voilà, que de dire, non, ça, je n'en veux pas. Ça veut dire aussi se démarquer. Ça veut dire parfois vivre une certaine solitude. Une certaine solitude, parce que d'autres, voilà, il y a l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est qu'on cherche son intérêt. L'esprit du monde, on se laisse aller par les passions, etc., le principe de plaisir, par voilà, bon, des choses où on ne prend pas conscience qu'il y a un combat intérieur. Il y a un combat intérieur. Et donc, je vous ai distribué donc le récit de la tentation hein, dans Saint-Luc. La tentation. La tentation, c'est toujours un mensonge. Quand le diable nous tente, c'est toujours un mensonge. C'est une promesse, une fausse promesse de bonheur. Celui qui pêche cherche toujours son bonheur. C'est une fausse promesse de bonheur. Un petit mot sur le démon, parce que c'est bien d'en parler aussi. Au plan théologique, bon, un petit rappel de catéchisme de base. Donc, dans la foi de l'Église, mais aussi dans la foi d'Israël, je pense que c'est la question des démons existe, et du démon existe aussi dans l'Ancien Testament. C'est un archange, c'est-à-dire quelqu'un qui a une splendeur Lucifer, celui qui porte la lumière, c'est ça que Lucifer, celui qui porte la lumière. Et il y a eu un combat pour les anges, il y a eu un test, il y a eu une épreuve. Alors, c'est plutôt la tradition qui nous rapporte ça. Dans la Bible, ce n'est pas dit explicitement, mais il n'est pas interdit. Dans la Bible, il est fait mention des démons, ça, explicitement, ça, c'est très clair. Mais il n'est pas interdit de penser que si pour la personne humaine, il y a eu une épreuve, comme on le voit avec le péché originel, il y a eu certainement aussi une épreuve pour les anges, hein, pour accueillir. Quelle était cette épreuve ? Là, plusieurs spirituels, etc., pères de l'Église, ont pensé que c'était face au projet d'incarnation, le projet d'incarnation du Verbe, hein, de comment de Dieu prendre la nature humaine, sachant que la nature humaine est de loin inférieure à la nature angélique. Et donc cet orgueil, Lucifer, non serviam, je ne servirai pas. Michael, c'est-à-dire qui est comme Dieu. Voilà. Et donc il y a eu un combat intérieur, il y a eu un combat pour déterminer. Donc c'est intéressant de voir que par le démon, par ses anges, par l'esprit du monde, nous tente. Et je pense que c'est important de. On parlera tout à l'heure de pratiques démoniaques, etc. Et d'être attentif à ça. Donc du coup, la tentation, et puis la tentation, un autre point, la tentation, elle est souvent dans l'imaginaire. C'est important. La tentation, elle est dans l'imaginaire. On imagine que. On se projette, on met dans sa tête déjà, et du coup, on passe à l'acte parce que déjà, on a conçu dans sa tête le projet d'eux. Ah ben si je prends de l'argent dans le portefeuille du voisin, je serais plus heureux. Ah si je mens et je dis quelque chose que je mets en valeur, je serais plus heureux. Ah voilà, si je. Il y a toujours un mensonge, mais c'est toujours. Ça commence par l'imaginaire. Le démon travaille dans l'imaginaire. D'où l'importance d'apaiser son imaginaire. Hein, il y a des personnes qui ont un imaginaire. L'imaginaire, il n'est ni bon ni mauvais. C'est une faculté que nous avons, etc. Simplement, il y a des personnes qui vivent beaucoup dans leur imaginaire. Donc, ils sont peut-être plus soumises, j'allais dire, à l'épreuve, à la tentation, de ce point de vue-là, parce qu'ils ont un imaginaire très riche. Alors, en tant que tel, c'est une bonne chose, c'est un charisme, c'est un don. C'est Aristote qui dit que l'imagination remplace l'expérience. C'est-à-dire que l'imagination permet à des jeunes d'agir parce que ça remplace l'expérience. C'est-à-dire que des gens intelligents qui imaginent, du coup, ils n'ont pas eu l'expérience d'eux, mais parce qu'ils connectent les choses avec. Du coup, ils ont, en se projetant, ils peuvent voir aussi les choses que les personnes qui ont vécu ont expérimentées. Donc, c'est intéressant de voir le lien entre l'imaginaire et l'expérience. Mais toujours est-il que. Donc, il y a un côté très positif dans l'imaginaire. C'est une puissance de l'âme. Je veux dire, c'est une faculté que nous avons. Donc, c'est comme voir, c'est ni bon ni mauvais. Voilà, toucher, c'est ni bon ni mauvais. Tout dépend ce qu'on en fait. Donc, du coup, c'est intéressant de prendre conscience qu'il y a un imaginaire. Et donc, on est tenté là-dedans. D'abord, on conçoit d'abord dans l'imaginaire. Et ensuite, on le réalise. Mais d'où l'importance d'avoir une garde. Voilà, une garde à son âme. C'est-à-dire de pas laisser déjà entamer dans son esprit les choses. Parce qu'ensuite, ce qu'on a conçu ou imaginé, à l'acte, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'un pas de la coupe aux lèvres. Et donc je vous ai distribué le combat spirituel, vraiment le combat du Christ, c'est évidemment l'agonie, mais il a commencé son ministère par la tentation. C'est ce qu'on a eu le premier dimanche de carême. Et j'aime bien, dans la version de Saint-Luc, Jésus rempli d'Esprit Saint revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert, durant 40 jours, tenté par le diable. Donc, c'est intéressant, juste un peu pour vous, vous ayez des. Quand vous voyez 40 dans la Bible, hein, 40 ans, par exemple, dans le désert, le peuple d'Israël, 40 jours, etc. Bon, il y a plein de 40 dans la Bible. 40, dans l'amantabilité biblique, c'est le temps d'une grossesse. C'est 40 semaines. 40 semaines d'aménorrhée. Hein. Donc, c'est 40, c'était pour eux, ils avaient calculé comme ça. Donc, dès que vous voyez 40, ça veut dire une fécondité. Ça veut dire une manière de, voilà, voilà, un passage de la mort à la vie, source de vie. Donc, juste pour que vous ayez quelques clés quand vous lisez et que vous vous retrouvez devant ce fameux 40 qui est présent beaucoup dans l'Ancien Testament et un peu dans et puis dans la liturgie aussi, il y a 40 jours, etc. etc. Donc ça c'est aussi, vous verrez, parce que c'est l'idée, il y a comme une gestation, hein, il y a une nouvelle naissance. Il ne mangea rien en ces jours-là, et quand ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. Voilà, la première tentation, c'est la tentation liée au corps. C'est ce qu'on appelle la concupiscence de la chair, liée au plaisir charnel. Là, il y a deux grands plaisirs charnels, je veux dire, tout ce qui est autour de boire, manger, et le plaisir charnel de la sexualité. Donc le démon tente aussi dans notre corps. Et du coup, nous pouvons aussi avoir des tentations de par un manque de maîtrise, de tempérance. Vous voyez, la tempérance, vous connaissez les vertus, hein, les vertus cardinales. Hein, je ne vais pas vous faire l'offense de vous les répéter, mais au cas où, un petit rappel va pouvoir éventuellement rafraîchir votre mémoire. Donc, vertus cardinales, cardinales comme les quatre points cardinaux. Donc, tempérance, c'est justement, c'est réguler en nous tout ce qui est source de plaisir. Le plaisir, il n'est ni bon ni mauvais. Simplement, il y a besoin d'être régulé. Hein. Force ou courage, c'est tout ce qui nous fait affronter des choses difficiles ou tenir dans l'épreuve. Voilà, ça c'est le courage. Justice. Justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc c'est le rapport aux autres. Et prudence. Prudence, c'est le juste milieu, c'est ordonner les moyens aux fins. La vertu de prudence, ce n'est pas appuyer sur le frein, hein, c'est ordonner les moyens aux fins. Vous avez la finalité de venir à cette retraite, ben vous devez réserver votre billet, vous êtes inscrit sur Internet, etc. Vous avez mis un certain nombre de moyens qui vous ont permis d'arriver à votre fin. Hein, et fin qui était bonne, et donc aussi de hiérarchiser les finalités entre elles. Donc vertu, c'est intéressant de voir le mot vertu. Vertu, c'est disposition permanente acquise par la répétition des actes. C'est-à-dire que on ne naît pas tempérant, on ne naît pas fort, on ne naît pas prudent ou juste, on le devient. C'est quelque chose dans lequel on doit s'exercer. Et le premier, quand on sort du vice pour aller vers la vertu, hein, eh bien le premier pas est difficile. Hein. La personne qui a eu par exemple l'habitude de mentir, comme un vice, c'est-à-dire que vraiment de. Il ment, cette personne-là ment souvent, ben, du coup, pour aller vers la vérité, qui est un bien, et le bien de l'intelligence, bien, du coup, c'est toujours le premier pas vers la vertu qui est difficile. Hein, le premier pas, alors, ensuite le deuxième est un peu moins, etc. Bon, de même, le premier, quand on est vertueux, pour aller, le premier pas vers le vice, c'est le plus difficile. Hein. Bon, imaginez, la plupart d'entre vous, je ne pense pas que vous ayez tué grand monde, mais imaginons, bon, la première personne que vous tuez, c'est le plus difficile. Au bout de la dixième, c'est un peu plus. Il y a quelque chose, je voulais dire. Bon, bref, j'espère que bon, on va peut-être effacer cette partie. Donc, voilà, donc c'est voilà, c'est intéressant. Donc, c'est une vertu. Donc, c'est intéressant que le Christ a expérimenté ça, a expérimenté la tentation, c'est-à-dire l'expérience par le démon de dire à ces pierres de se transformer en pain. L'homme ne vit pas seulement. Et il répond avec à la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, c'est la parole de Dieu. Donc c'est intéressant, c'est d'avoir aussi, quand on a des tentations, d'avoir un petit peu des automatismes, des trucs qui vous disent, voilà, je sens que là, mais du coup, répétez-vous une parole de Dieu qui vous aide dans cette tentation. Hein, si vous avez tentation du désespoir ou du découragement, ben voilà, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, cette parole de Jésus. Voilà, ayez un petit peu vos trucs, voilà, qui vous aident à lutter, à ne pas vous enfermer dans la tentation. La deuxième tentation, l'emmenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, je te la donne et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Là aussi, c'est la parole de Dieu. Donc cette tentation par rapport aux richesses, au pouvoir, c'est hein, c'est le richesse, la richesse donne le pouvoir. Hein, et donc on peut être plus ou moins tenté, être séduit par le, qu'on prend conscience qu'on a un certain pouvoir sur les autres, bien il faut être vigilant. Qu'on prend conscience que sa parole influe et met en route un certain nombre d'actes chez les autres, il faut être très vigilant avec soi-même. Parce que l'abus de pouvoir n'est pas loin. L'abus de pouvoir, la flatterie, etc., n'est pas loin. Donc là aussi, être attentif à ça. C'est juste. Voilà, c'est l'humilité, au fond. Hein, ces trois formes d'orgueil qu'on décrit là, auxquelles correspondent trois formes d'humilité, on va le voir tout à l'heure. Et puis ensuite, il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que le démon n'a aucun doute sur l'existence de Dieu. Ni aucun doute que le Christ est Seigneur. Je vous rappelle, les premiers à confesser la foi en Christ, ce sont les démons. Rappelez-vous, hein, le démoniaque que Jésus libère, hein, nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Parce que le démon n'a aucun doute sur Dieu. Il a, voilà, nous savons qui tu es. Nous, on est empêtrés dans la chair, dans la matière, dans le temps, etc. Donc on ne voit pas plus loin que beaucoup de son nez. Mais le démon est une créature spirituelle. Hein, et donc voilà, c'est intéressant de voir qu'il lutte. Il y a une mauvaise utilisation de la parole de Dieu. Hein, certains peuvent même nous tenter avec la parole de Dieu. Et il répond avec sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. Ça aussi, c'est la parole, c'est le psaume. Hein, voilà, mais Jésus répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Voilà, il répond aussi. Donc cette troisième tentation, c'est la tentation de l'orgueil, c'est-à-dire de se placer au sommet, c'est au pinacle du temple, c'est au sommet du temple, c'est au sommet du lieu de la présence de Dieu. Je me prends pour Dieu. Je me prends pour Dieu. C'est-à-dire, et se prendre pour Dieu, c'est-à-dire s'auto-centrer. C'est-à-dire n'accepter de loi que la sienne. Se prendre pour Dieu, ça peut être aussi une forme de perfectionnisme, de rentrer dans une forme de contrôle, que rien ne m'échappe. Quelque part, le manque de vie de prière dans notre vie, c'est aussi une manière de se prendre pour Dieu. Mais on a tous un Dieu. C'est ça qu'il n'y a personne d'athée. On a tous ça peut être ma voiture que je lave religieusement tous les dimanches matin, etc. Ça peut être. Voilà des choses. Qu'est-ce qui me fait bouger le matin? Alors, ça peut être mon travail, ça peut être voilà ma réputation, ça peut être. Quel est ton Dieu? Où est-il ton Dieu? C'est la question qu'on verra tout cet après-midi, des idoles et des fausses images de Dieu. Et puis c'est intéressant, ayant épuisé toute tentation, et ça c'est dans Saint Luc, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable, et le moment favorable, on l'a vu, c'est l'agonie. C'est là où il sera retenté. C'est-à-dire que toute tentation, d'une manière ou d'une autre, a à voir avec la concupiscence de la chair, la concupiscence des richesses, la concupiscence de l'esprit, ou l'orgueil de la chair, l'orgueil des richesses, l'orgueil de l'esprit. C'est-à-dire ne pas accepter une limite, vouloir donner à ses désirs l'infini de l'intelligence. On voit des gens qui développent une intelligence considérable, mais pour réaliser leurs vices. Et ils développent une vraie intelligence. Et donc c'est intéressant de voir ces... Et à ces trois orgueils correspond l'humilité et correspondent les conseils évangéliques que vous connaissez bien, de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, qui viennent guérir en nous l'orgueil de la chair, l'orgueil des richesses et du pouvoir, et l'orgueil de l'esprit. Et ces trois orgueils, d'une manière ou d'une autre, sont en nous. Alors l'un ou l'autre, on a plus de fragilité, mais c'est dans notre nature humaine blessée, il y a quelque chose qui fait qu'on tend vers une chose, qu'on tend, voilà. Donc c'est intéressant de se connaître soi-même pour aussi voir où sont mes fragilités et pas y aller. C'est important aussi de découvrir, au fond, en nous, de repérer les nœuds dans notre vie qui parasitent un peu le discernement, qui parasitent le fait de la suite du Christ. Qu'est-ce qui, en moi, m'éloigne du Seigneur? Qu'est-ce qui, en moi, m'oppose à Dieu? Il y a quelque chose qui m'oppose à Dieu. Par exemple, c'est souvent l'orgueil de l'esprit, le plus grand orgueil, c'est-à-dire... Est-ce que vraiment je fais confiance au Seigneur quand je dis, ben voilà, faites de moi ce qu'il vous plaira, dans la parole, dans la prière de Charles de Foucault, faites de moi ce qu'il vous plaira. Est-ce que je le crois vraiment? Est-ce que en nous a été semé le doute, en nous a été semé la peur de Dieu. Attention, te fais pas avoir. Qu'est-ce qu'il peut te faire? Et si tu te laisses mettre entre ses mains comme l'argile dans les mains du potier, qu'est-ce qu'ils veulent? On voit l'amour de Dieu comme une menace à notre liberté, à notre autonomie, alors qu'elle est l'accomplissement de notre nature. Ça, c'est vraiment le péché, c'est le doute, le soupçon qui a été jeté en nous. Et du coup, c'est important, c'est bien aussi de repérer ça. Ce qui fait que on n'arrive pas à vivre le moment présent, on n'arrive pas, etc. Donc repérer, c'est repérer tout ce qui peut être aussi ces nœuds qui nous tiennent captifs. Je pense par exemple à tout ce qui est tout ce que représente l'emprise. Je suis très attentif, par exemple, dans les préparations au mariage, justement à revisiter les relations des fiancés avec leur famille et de détecter d'éventuelles emprises. L'emprise, c'est-à-dire que c'est une idolâtrie, c'est la parole de quelqu'un qui, au fond, dirige ta vie et t'empêche d'être vraiment libre. Cette parole-là, elle compte plus que la parole de Dieu. On t'a dit toute ta vie que tu étais nul, mes parents m'ont dit ça c'est vrai. Et Isaïe dit, je t'ai gravé dans les paumes de mes mains, tu as du prix à mes yeux, ça c'est faux. Donc, les emprises, justement, ça fait partie de se dégager de l'emprise, se dégager de... C'est pas facile. Et je trouve que c'est à l'occasion justement de la formation d'un couple que rejaillissent un peu ces questions-là d'emprise ou de comment dire, de mauvaise, d'un regard parfois négatif que l'on a posé sur le jeune lorsqu'il était enfant, lui faisant sentir que c'était jamais assez. Cette forme de perfectionnisme qu'il peut y avoir dans certaines éducations. Hein, j'accompagne comme ça un couple et elle a beaucoup de misère avec ça. Son père toujours disait non, ça c'est pas le point noir dans la page blanche. Voilà, souligner ça. Ce qui fait que, à l'heure de construire un couple, elle reproduit ça. C'est et donc elle envoie des scuds à son fiancé. Je dis non, ça va pas être possible. Ça. On peut pas vivre 50 ans sous les scuds. Je veux dire non, ça va pas être possible comme ça. D'autant plus l'allongement de la durée de la vie, etc. Donc du coup voilà non. Donc, fais quelque chose, quoi, parce que. Mais elle me dit, mais c'est une fille. Mais on sent qu'il y a, mais c'est une forme d'orgueil aussi. C'est, mais voilà, elle me dit, mais pour papa, c'était jamais assez bien. C'était jamais assez bien. Toujours trouver le détail. Oui, c'est la misère, la pauvre. Donc elle lutte, elle sent bien qu'elle a besoin de guérir quelque chose, que le Seigneur guérisse en elle, et vraiment de redécouvrir une certaine bonté, de redécouvrir. Et je trouve que de ce point de vue-là, le mouvement charismatique fait beaucoup de bien aussi à des personnes comme ça, éduquées dans un certain carcan de perfectionnisme et de pas le droit à l'erreur, pas le droit, etc. Mais toujours souligné. Donc, c'est une forme de peur de ne pas plaire, au fond. Hein. L'enfant, on a le désir de plaire à ses parents, c'est normal. Et donc, du coup, je trouve d'être revisité par l'amour de Dieu, je trouve la beauté dans le mouvement charismatique, hein, c'est vraiment cette confiance, cet esprit d'enfance. Ah, vous levez les mains comme ça, ou Alléluia. Bon, moi, c'est pas trop mon truc, mais bon, mais peut-être que je devrais, j'en sais rien, mais ça me ferait du bien. Mais bon, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un esprit d'enfance retrouvé, etc., qui, je trouve, pour certaines, ça les libère vraiment. Il y a une vraie liberté dans l'esprit et qui est vraiment très, très belle. Ensuite, combat spirituel, évidemment, lutter contre nos addictions. Alcool, drogue, pornographie, etc., les addictions, ce qui nous retiennent captifs. Cigarettes, voilà, c'est toute forme de compensation, quoi. C'est aussi se débarrasser des pratiques occultes. Des pratiques occultes, spiritisme, cartomancie, astrologie, magie, nécromancie, voyance. Alors là, si vous avez touché de près ou de loin à ces trucs-là, il y a un lien qui se crée. Moi, c'est-à-dire qu'on ouvre des portes aux démons. Alors, oui, très clairement. Parce que c'est quoi ça? Cartomancie, astrologie, magie, nécromancie, c'est faire passer, parler des morts, voyance, etc. C'est incroyable le nombre de voyants. J'aurais dû être voyant, tiens. Mais 15 millions de consultations, 3,2 milliards de chiffre d'affaires. Oh là là, qu'est-ce que ça rapporte alors? Je vois ça. Mais du coup, voilà. Porte-bonheur, pareil, porte-bonheur, gris-gris. Superstition, horoscope. C'est quoi ça? Je veux dire, les gens qui regardent leur horoscope comme vraiment c'est le Saint-Évangile, voilà. Je regarde chaque jour l'Évangile, mais ne consulte pas l'horoscope. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des gens. Oui, ça c'est vrai, c'est probable que je vais. Quand tu regardes l'horoscope, c'est marrant parce qu'en fait, tu ne peux pas être contre. Aujourd'hui va être un jour difficile. Alors, du coup, je me mets dans une disposition, ça va être un jour difficile. Bon, c'est particulier. Pourquoi ça crée vraiment une emprise, si vous voulez. Je trouve, même si c'est pas directement, disons, démoniaque, oui, parce que le démon peut s'en servir pour tisser, pour nous retenir. Hein. Vous savez, que ce soit par une chaîne épaisse comme le poing ou par un fil de soie, si on est prisonnier, on est prisonnier. Et le Seigneur nous appelle à la liberté des enfants de Dieu. Viens nous libérer, c'est la Pâque. Hein, je pense aussi, alors, franc-maçonnerie, par exemple, tout ce qui est autour de la franc-maçonnerie. Je ne sais pas si vous avez été approché, moi je connaissais comme ça quelqu'un qui a été approché à l'intérieur même d'un groupe jeune pro. Parce que qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que j'ai un peu compris, c'est que ça fait sauter un plafond de verre, c'est-à-dire ça te fait accéder à des. C'est le pouvoir, c'est vraiment la tentation du pouvoir, quoi. C'est accéder à des personnes, etc., que le commun des mortels n'a pas. Voilà, le téléphone du Premier ministre, bon, je ne sais pas s'il est dans ma franc-maçonnerie, bon, imaginons tel ministre ou tel autre, etc. Bon, parce que du coup, il y a une certaine valorisation, je fréquente des gens qui sont importants, etc. Yoga, la question du yoga, moi je suis partagé là-dedans. Bon, l'Église n'a rien, il n'y a pas de document sur le yoga en tant que tel. Alors, je parle du vrai yoga, pas des séances de relaxation pour parisiennes surstressées, si tu veux. Hein. C'est pas ça. Bon, si on écoute ton souffle, hein, tu regardes, j'écoute ton souffle. Ça c'est bon, soit. Hein, bon. Pas être contre. Le Père Verlinde, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le Père Verlinde qui a créé une communauté, la commune de la famille Saint-Joseph, etc., a été maître yogi. Il a écrit un livre qui s'appelle L'expérience interdite, qui a été, bon, ça remonte à plus de 10 ans, et il a prêché à Notre-Dame, etc., et le carême, et l'expérience interdite. Et du coup, il a vécu tout ça, il a été dans les ashrams, il a été dans. Et il disait une chose étonnante, c'est que il avait une telle. C'est vrai que nous avons des énergies, c'est évident. Le fait qu'il y ait une chaleur fait que ça des énergies, c'est physique. Et donc, d'avoir une certaine captation des énergies de son corps, apprendre à capter les énergies de son corps, qui fait que quand il avait appris la position du lotus, etc., à capter toutes les, à prendre conscience de ces énergies-là, parce qu'on a énormément d'énergie. Et du coup, dès que quand il s'est converti au Christ, il a dit j'avais une telle habitude de la position du lotus et une telle habitude de capter ces énergies, et donc une forme de toute puissance, parce que derrière ça, c'est la toute puissance, c'est je commençais à l'éviter. C'est-à-dire que c'est un phénomène aussi naturel, je pense. Donc, et du coup, il dit je mettais ma jambe. Droite sous ma jambe gauche, prêt, comme un automatisme, je m'étais tellement entraîné, un vrai maître yogi, si tu veux. Donc, c'est vraiment une spiritualité qui est très différente de la spiritualité chrétienne. C'est presque, même si certainement il y a des choses intéressantes, etc., mais dans cette philosophie, une philosophie de vie, etc., c'est le rapport au corps n'est pas du tout. Je veux dire, c'est presque l'inverse de l'incarnation, quoi. Et du coup, moi, je me pose la question, quand on rentre dans ces dimensions du yoga, etc., et de captation d'énergie, ou de se fondre dans l'énergie, voilà, on voit des gens comme ça, on voyait qu'on était visité Vézelay, donc, parce que forcément, les cathédrales, etc., c'est des lieux telluriques aussi, si vous voulez, c'est des lieux de force, bon, parce que c'est dans les anciens lieux païens, bon, voilà, bah, tout ce que vous voulez. Alors du coup, on voyait quelqu'un qui s'avançait dans la neige comme ça, en train de capter les énergies telluriques. Bon, c'est très bien. Si t'as que ça à faire, c'est magnifique, mais bon, moi, je sais pas si les énergies telluriques qui vont te sauver. Je veux dire, c'est là où. Donc, attends, si vous allez dans ces trucs un peu borderline, un peu. Il y a des liens. Parce que on dit oui, il faut faire le vide en soi, il faut faire dans toutes les dimensions du yoga, etc. Mais qu'est-ce qui remplit le vide que tu as laissé en toi? C'est une question. C'est une question. Bon, l'Église n'a pas, ne s'est pas prononcée là-dessus. De même, j'étais à la méditation de pleine conscience, qui n'est pas l'oraison. Qui n'est pas l'oraison, hein, parce qu'on voit maintenant fleurir, même dans les écoles laïques, des temps de méditation, qui a un côté naturel intéressant. Je veux dire, on ferme les yeux, on prend conscience du monde qui nous entoure, etc. C'est très bien. Mais je pense que ça peut être, en tout cas, pour un chrétien, c'est peut-être le premier pas vers vraiment une oraison, c'est-à-dire un contact personnel avec le Seigneur. Mais si c'est juste pour une expérimentation d'un bien-être, vous voyez, le culte du bien-être. Donc on met le spirituel au service du bien-être. C'est pas ça la vie chrétienne. que ça te donne un bien-être. Bon, c'est une surabondance, tant mieux pour toi, mais ce n'est pas le but premier. Jésus n'est pas venu apporter le bien-être. Lui-même, on le voit bien ces jours-ci, n'a pas beaucoup expérimenté ça, en tout cas en cette terre. Donc c'est intéressant de. Soyez attentif, si vous avez certaines pratiques aussi médicales, certaines pratiques médicales, où là on sent aussi qu'il y a des. Dès que c'est plus technique, mais on veut donner un contenu, comme par exemple un peu j'ai vu ça dans certaines pratiques de la décorporation, c'est-à-dire on veut faire sortir quelque part l'âme du corps, etc. Donc une pratique, voilà. Donc soyez attentif. On a eu un monsieur qui était venu à l'abbaye, etc. Et que le médecin de son état. Mais qui voulait absolument éliminer les toxines. Pourquoi pas? Mais du coup, c'est un particulier. Du coup, dans ses séances, il avait trois petites statuettes et puis il y avait un pendule. Alors tu te dis. Alors, il voulait venir consulter ici. Ben non, je lui dis, non, on ne va pas consulter ici. Je veux dire, parce que ici, il peut y avoir un mélange des gens un peu particulier. Ça, puis ça, non, du coup, il est un peu tendu du nez, etc. Mais je lui dis, ben non. Ouvrez votre cabinet, faites votre truc. Mais là, vous voyez, c'est des choses, dès qu'on sent que. Je sais pas, faites-vous confiance aussi. Maintenant, il y a des choses aussi naturelles. Je pense en médecine, il y a des. Par exemple, les rebouteux, les guérisseurs, etc. Il y a des. Mais qui sont de l'ordre naturel, où il n'y a pas un contenu qu'on veut transmettre en même temps que la pratique. Des guérisseurs, mais qui ont des charismes naturels. De même, les sourciers, c'est encore autre chose. Je me rappelle quelqu'un, etc., qui est sourcier, il me donne la baguette de noisetier, etc. J'étais à la campagne, j'étais enfant, et il me dit, vas-y, avance. Alors j'avance, etc. Ça faisait rien. Il met sa main sur mon bras. Mais c'est des dons naturels. Mais tu vois, quand tu as un don comme ça naturel, évidemment, si tu veux être chrétien, ça demande d'être coaché, je veux dire. Parce qu'il y a une forme de toute-puissance aussi. Tu as des choses que les autres n'ont pas, que le commun des mortels n'a pas. Donc voilà, soyez juste attentifs avec ces pratiques-là. Et que si vous avez d'une manière ou d'une autre été en lien avec ces pratiques que je viens de nommer, je pense que c'est important d'être attentif à couper les liens, voilà, à peut-être demander, bon, la confession et le sacrement qui coupent le lien. J'aime bien cette phrase de Saint Benoît, dans la confession, on fracasse la tentation contre le Christ. C'est-à-dire que j'ai mon combat, repérer son combat, et c'est vrai, on se dit oui, mais de confession en confession, je confesse toujours la même chose. Bon, je vous fais remarquer qu'on se lave les mains plusieurs fois par jour, ainsi qu'on se brosse les dents et qu'on prend sa douche tous les jours. Je veux dire, c'est même si on sait que demain ça va salir, et pourquoi pour l'âme on n'en ferait pas pareil, donc. Et puis on ne vous demande pas d'être dans l'originalité dans les confessions, mon père. Alors là, vous n'allez pas vous ennuyer. Je vous dis tout de suite, là j'ai fait ceci, c'est en vidéo couleur, 3D, etc. Non. Voilà, vous venez confier au Seigneur votre combat. Vous avez repéré votre combat. Hein, se connais-toi toi-même, se méfie-toi toi-même. Vous avez repéré votre combat vous voulez vous confier au Seigneur votre combat et vos échecs et dans le combat, voilà. Là, vous avez baissé la garde, là, vous avez. Bon, donc, dans ce combat spirituel, il y a évidemment des armes spirituelles qui nous sont données. Des armes spirituelles qui nous sont données. Hein, on voit dans Saint Paul aux Éphésiens, hein, qui dit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de vous pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez-vous donc ferme en ayant vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà, c'est. Le Seigneur donne, on a des armes spirituelles, là, c'est de façon un peu imagée que saint Paul parle, de façon pratique, évidemment, les sacrements, ce sont des armes spirituelles, évidemment, l'accompagnement spirituel est une arme spirituelle, la prière, la lecture de la parole de Dieu, voilà, c'est des choses qui vous aident aussi, qui nous aident à nous tenir, on a tous besoin d'une rampe, on a tous besoin d'une rampe. Et puis aussi la miséricorde, voilà, parce que si on a des combats, ben voilà, on a aussi des chutes. Et justement, être chrétien, c'est ne pas de se décourager. Au contraire, le découragement est propre vraiment du malin, du démon qui veut nous enlever l'espérance. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur une chose qui serait intéressante. Oui, l'Esprit Saint nous fait discerner entre le discernement entre tentation et péché. Ça peut être intéressant d'avoir un peu quelques notions là-dessus. L'Esprit Saint nous fait discerner entre l'épreuve nécessaire à la croissance de l'homme intérieur en vue d'une vertu éprouvée et la tentation qui conduit au péché, à la mort. Nous devons aussi discerner entre être tenté et consentir à la tentation. C'est pas pareil. Le Christ était tenté, il n'a pas consenti à la tentation. Enfin, le discernement démasque le mensonge de la tentation. Apparemment, son objet est bon, séduisant à voir, désirable. Vous vous rappelez les Genèse. Alors qu'en réalité, son fruit est la mort. Regarde, le fruit du bien, de l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire, de façon imagée, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir le bien et le mal de la part de Dieu, je veux moi-même déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. En Genèse 3, 6. C'est par sa prière que Jésus est vainqueur du tentateur dès le début. Et dans l'ultime combat de son agonie, c'est son combat, à son combat et à son agonie que le Christ nous unit dans la demande du Notre Père. Il ne nous laisse pas entrer en tentation. La vigilance du cœur est rappelée avec insistance. La vigilance est garde du cœur. Jésus demande au Père c'est de nous garder en son nom. L'Esprit Saint cherche à éveiller sans cesse cette vigilance. Cette demande prend tout son sens dramatique par rapport à la tentation finale de notre combat sur terre. Elle demande la persévérance finale par rapport à la mort. Voilà, donc c'est intéressant de pouvoir être attentif à ça, reprendre conscience au moment de ces jours saints, de ces voilà, de nos points de fragilité, parfois nos nœuds, tout ce qui peut éventuellement nous tenir captifs, et demander au Seigneur le pouvoir de nous en libérer.